Bonjour et bienvenue dans ce 25e épisode de Québec au pluriel et aussi le deuxième de ma trajectoire le long de la 132. Cette fois-ci, il a été enregistré réellement dans un village le long de la 132 à Port-Daniel, plus précisément dans le sud de la Gaspésie, où je suis allée rencontrer la romancière Perrine Leblanc qui y vit depuis plusieurs années. Nous avons donc parlé, entre autres, de la façon dont la littérature façonne son identité. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Perrine!
Salut Alexia.
Merci beaucoup de me recevoir chez toi, ici en Gaspésie. Moi, je suis arrivée hier soir, donc je commence à te connaître. Mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, je m'appelle Perrine Leblanc, je suis écrivaine, essentiellement romancière. Je suis née à Montréal en 1980. J'ai grandi dans la région des Bois-Francs et je vis en Gaspésie depuis 2018.
Et déjà, pour parler de ton écriture, tu as publié 3 romans.
J'ai publié 3 romans, plusieurs textes dans des collectifs, des magazines, des journaux, des revues. Mais j'ai publié 3 romans et je viens de publier un livre d'art. Donc c'est un livre aussi, parce que c'est un livre qui compte 15 000 mots. Donc c'est la moitié d'un roman pour moi, à peu près. Donc ça compte pour un livre. Mais oui, 3 romans.
Et tu fais partie des rares auteurs, autrices du Québec à être publiés chez Gallimard. En France.
Oui, dans la collection Blanche, j'ai fait paraître mon premier roman, L'homme blanc, en 2010 aux éditions du Cartanier, qui était une toute petite maison à l'époque, qui était surtout reconnue dans le milieu littéraire pour ses publications audacieuses. Et en 2010, ils ont lancé une collection de romans narratifs, vraiment dans la tradition du storytelling à l'américaine. Et puis, L'homme blanc a paru le 7 septembre 2010. Et l'année suivante, il a été repris dans la collection Blanche des éditions Gallimard parce que j'avais gardé mes droits pour la France. Donc, j'ai pu démarcher moi-même les éditeurs français. Et depuis, Gallimard est ma maison d'édition. J'ai publié directement Malabour en 2014, Jean du Nord en 2022.
Et dans ton écriture, tu as une approche très historique. Tu fais beaucoup de recherches historiques. Puis tes 3 romans portent quand même sur des thématiques historiques. Comment ça t'est venu, cette démarche d'aller quand même assez profondément dans des détails historiques comme ça?
Je ne fais pas de roman historique, même si je vais vraiment effectuer pour chacun de mes romans jusqu'à présent. C'est ce que j'ai fait, un travail de terrain, vraiment, de recherche documentaire qui peut, mon Dieu, ce travail-là peut durer 2-3 ans. C'est vraiment un travail immersif. Donc, j'ai vraiment besoin d'être en immersion, de faire corps avec le sujet, de me familiariser avec un sujet, avant de laisser la matière se déposer en moi pour que pendant 2 ans, ce soit l'écriture, le travail littéraire qui prenne le relais. Je m'emmerderais si je réécrivais toujours le même livre ou si je parlais de moi dans chacun de mes livres. Il y a des auteurs qui le font très, très bien. Donc, j'ai besoin à chaque livre de changer de sujet. Et il faut savoir de quoi on parle. Alors, si, par exemple, je me lance dans un sujet comme l'histoire de la guerre civile en Irlande du Nord, des années 60 jusqu'à la signature de l'accord de paix du Vendredi Saint, il faut que je me documente. Et c'est ce que j'ai fait en 2014, 2015, presque 2016, presque toute l'année 2016, avant de me consacrer à l'écriture du roman. Je me suis formée. Je suis allée 3 fois en Irlande. J'ai rencontré, par exemple, des anciens combattants de l'IRA. J'ai rencontré des membres des forces de l'ordre, donc des agents de renseignement, des anciens agents de renseignement, des militaires de haut niveau, des reporters de guerre. Je me suis familiarisée avec le sujet, avec le terrain, et ensuite avec mes outils, qui sont ceux de la romancière, et non les outils de l'historien, du sociologue ou du journaliste. J'ai inventé, j'ai créé une histoire, et c'est Jean du Nord qui a été publié en 2022, qui aurait paru plus tôt, mais la pandémie en a retardé sa sortie. Le roman a été accepté par le comité de lecture chez Gallimard en septembre 2019. Il est paru en 2022.
D'accord.
Donc, il y a vraiment eu... le roman a été dans l'antichambre de la publication jusqu'à ce que, bon, En 2022, quand il est sorti en février en France, on était encore, on était en queue de pandémie, donc il y avait vraiment, c'était pas encore tout à fait ouvert partout, donc ça a été plus difficile, mais c'était possible à ce moment-là de publier le livre. Donc il y a vraiment un travail de recherche, un travail immersif, mais tu vois, Alexia, mon dernier livre, Petite Nature, que j'ai fait paraître cette année, une édition vraiment d'art, une édition de luxe, presque artisanale, c'est un livre extrêmement personnel où il n'y a pas de recherche historique. C'est vraiment ma vie en Gaspésie. Donc, je peux aussi faire des textes plus intimes.
D'accord. Et comment est-ce qu'on rencontre des gens qui font fait partie de l'IRA? On leur écrit « Salut, j'écris un roman qui va se passer en Irlande, peut-on se parler ?»
Non, ben c'est certain qu'on peut on peut rencontrer des journalistes qui ont été reporters pour certains journaux français très importants pendant les troubles et à travers eux avoir accès à d'anciens combattants. Mais ça peut aussi être plus simple que ça, c'est aller à Belfast, s'inscrire pour une visite guidée du quartier gaélique, qui est cette visite guidée est faite par un ancien combattant qui a passé 20 ans en prison pour appartenance à l'IRA, pour avoir fait sauter des bombes et pour avoir été il a été bon ce type-là, je pense à quelqu'un en particulier qui m'a donné quelques informations et c'est connu, c'est-à-dire que ils ont été libérés, ces gars-là, après la signature des accords de paix en 98, selon l'entente qui avait été négociée entre les parties. Et c'est connu, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent pas. C'est pas si difficile que ça. Ça a pas été parlé à des officiers de renseignement. Ça, c'est plus difficile. Mais ça, j'ai pu avoir accès à deux ou trois personnes qui ont accepté de me parler, qui ne sont plus dans le métier. Sinon, bien sûr, je l'aurais pas su ou ils auraient pas accepté de me parler. Mais ça a été assez fascinant. Hein. C'était vraiment comme explorer un nouveau territoire. J'avais l'impression d'être, c'est entrer dans le sujet. Vraiment, avec des gens qui ont été des acteurs.
Tu disais donc que ton dernier roman, Jean du Nord, se passe en Irlande, il se passe en France aussi.
Et au Québec,
c'est ça. C'est comme entre Montréal, Belfast et Paris. Ton roman Malabour, lui, se passe en Gaspésie.
Essentiellement, mais la dernière partie du roman se passe pendant les manifestations étudiantes de 2012 à Montréal, à New York. Donc, on a vraiment une première partie en Gaspésie dans un village imaginaire. La Gaspésie, c'est une région que je connaissais même très bien avant de m'y établir en 2018 parce que ma mère est originaire de la Gaspésie. Donc, je me suis inspirée de ce que je connaissais de la Gaspésie. J'ai imaginé un village Malabour et donc les personnages quittent le village de Malabour au milieu du roman pour s'établir à Montréal et c'est une immigration intérieure vraiment qui m'a permis de alors que moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai quitté Montréal pour venir m'établir en Gaspésie. Je suis en exil, c'est un exil économique, mais aussi c'est un choix esthétique de vivre près de la mer plutôt que de vivre dans un îlot de chaleur à Montréal.
Et justement, en tant que Québécoise, le fait d'avoir grandi à Montréal, vécu longtemps dans des grandes villes et maintenant de vivre dans un village en Gaspésie, est-ce que ça t'a fait redéfinir la façon dont tu te sens Québécoise?
Ben, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi en région. J'ai grandi à Victoriaville, qui est une ville de intermédiaire de taille moyenne. À l'époque, je pense qu'avant les fusions, on était à 35-40 000 habitants à Victoriaville. Donc, on est à mi-chemin. On est entre Montréal et Québec à Victoriaville. Donc, je sais ce que c'est vivre dans une plus petite communauté. On peut facilement être anonyme et ne parler à personne quand on vit à Montréal pendant des jours. Dans une ville comme Victoriaville, c'est plus difficile. Et dans un village comme Port-Daniel, qui est l'endroit où on se trouve en ce moment, ben, je pensais que ce serait plus difficile aussi de tu sais, je me disais, les gens doivent se côtoyer, les gens doivent se parler. Mais non. En fait, je vis beaucoup plus de solitude depuis que je suis en Gaspésie parce que il n'y a pas de lieu où on peut se rencontrer dans mon village. Il y a la bibliothèque municipale, mais il n'y a pas il n'y a pas 1600 lecteurs dans mon village. En fait, mon déménagement en Gaspésie a changé, a bouleversé ma sensibilité, mon rapport à la nature, à moi-même. Donc forcément, oui, mon rapport à ma québécitude, probablement. Je dis souvent en blague, mais finalement, c'est peut-être pas une blague, que la Gaspésie, c'est un pays. C'est un Finistère. La Gaspésie, c'est la fin des terres. C'est notre Finistère québécois. Et c'est ce que je disais aux gens qui étaient confinés pendant la pandémie à Montréal. Moi, je disais, mais la Gaspésie est confinée depuis qu'il n'y a plus de train passager. C'est très difficile de se déplacer en Gaspésie. Sans voiture, c'est impossible. C'est pratiquement impossible. Il y a le régime, un petit service de transport collectif, mais qui est vraiment... je pense que s'il passe deux fois par jour. Il n'y a pas... se déplacer, bon, prendre l'avion pour aller à Montréal, ça coûte presque aussi cher que de prendre l'avion pour aller à Paris quand on vit à Montréal. Le train passager changerait beaucoup de choses dans notre rapport aussi au Québec. Donc, on vit quand même assez isolé du reste du Québec. Et ça donne lieu à je dirais, de belles créativités qui peuvent naître de ces contraintes qui nous forgent et qui nous forment. Donc, c'est certain que quand je vivais à Montréal, j'ai quand même passé une vingtaine d'années à Montréal, j'étais très attachée à Montréal. Et encore, maintenant, je dis parfois que je suis une Montréalaise en exil. C'est très difficile de sortir Montréal de soi parce que je suis devenue adulte et écrivaine à Montréal. Et la vingtaine, c'est quand même une décennie qui est très, très fondatrice dans une vie de femme, une vie d'homme. J'ai fini mes études dans la vingtaine, à 25 ans. J'ai publié mon premier roman à 30 ans. Je vivais à Montréal. Montréal fait partie aussi intégrante de mes deux derniers romans, c'est-à-dire Malabour et Jean du Nord. Montréal est personnage dans ces deux livres-là. J'ai beaucoup de mal à me dire gaspésienne, parce que je suis pas née en Gaspésie. Mais en même temps, ma mère est gaspésienne, donc la moitié de mon bagage génétique est d'ici. J'ai gagné en juin dernier le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la Gaspésie, artiste de l'année. Donc c'est des prix qui sont prestigieux, qui sont donnés à chaque année dans les régions du Québec par des jurys multidisciplinaires. Qui sont formés par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ. Et même, j'avais l'impression presque, il y avait un sentiment d'imposteur d'aller chercher le prix artiste de l'année en Gaspésie. Et pourtant, ça fait presque 6 ans que je vis en Gaspésie. C'est chez moi, c'est pas une résidence secondaire. Je vis à temps plein en Gaspésie, même si je voyage. Donc, ça ajoute une couche à l'identité. Je suis québécoise, montréalaise de naissance et gaspésienne. Donc, j'ai quelque chose de plus qu'avant.
Et ton roman Malabour a été écrit avant que tu vives en Gaspésie.
Oui.
Et donc, tu avais déjà, j'imagine, par la littérature aussi, renforcé ce lien, tissé plus un lien avec la Gaspésie.
Mais ce qui est vraiment merveilleux, c'est que Malabour est sorti en 2014 et... À moins que je me trompe, il me semble que c'est en 2015 que j'ai été invitée à faire une tournée littéraire en Gaspésie. Donc, de Pointe-à-la-Garde, qui est dernier village de la vallée de la Matapédia, jusqu'à Gaspé. Donc, j'ai rencontré des groupes de lecteurs, je suis allée dans des bibliothèques municipale, j'ai rencontré les étudiants au cégep de Gaspé, j'ai donné un atelier de création, donc vraiment, et ça a duré quelques jours, j'étais accompagnée par un accompagnateur, c'est-à-dire que comme c'est très difficile de se déplacer en Gaspésie, ben on a un conducteur privé, un chauffeur privé, c'est vraiment, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'était la première fois que je me déplaçais sur une assez grande distance en Gaspésie sans ma famille. Donc, vraiment, à titre d'écrivaine. Et je me souviens que entre Percé et Gaspé, j'ai redécouvert la Gaspésie sous cet angle-là. C'est-à-dire que j'ai revu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Rocher percé, sous cet angle-là. J'étais absolument fascinée par les paysages. Je me suis dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. J'ai vu l'Irlande, j'ai vu la Bretagne. C'est des territoires que j'aime d'amour. Et là, je suis retombée en amour avec la Gaspésie. Donc, ça m'a vraiment... Et c'était... c'est pas prémonitoire du tout, c'est pas... Mais j'ai décrit dans Malabour un village imaginaire et je retrouve dans le village qui est le mien aujourd'hui certains éléments. Et je me dis, ben, ça veut dire que l'intuition, j'avais peut-être assez bien saisi ce qui pouvait constituer un village en Gaspésie, un village traditionnel, disons.
Et t'as aussi écrit sur l'Irlande. Et toi, t'as un rapport assez sentimental avec l'Irlande parce que tes deux grands-mères sont d'origine irlandaise.
Elles sont d'ascendance irlandaise. Elles sont nées au Québec, mais elles sont vraiment issues d'une immigration récente dans l'histoire du Québec, qui est quand même un territoire colonisé. Mais disons que cette colonisation-là est jeune. Québec a une histoire avant que les colonisateurs s'installent ici. Donc, c'est une immigration du 19e siècle. Donc, c'est assez récent et c'est tellement récent. Cette immigration est plus récente que l'immigration française dans mon histoire personnelle, dans mon histoire génétique. Donc, 50% de mon bagage génétique est irlandais.
Et c'est quelque chose d'important pour toi? Parce que j'ai l'impression que les Québécois francophones, souvent... On est quand même nombreux. Moi, je fais partie aussi de ces gens qui ont une ascendance irlandaise, comme je pense une très grande partie de la population francophone québécoise. Mais on dirait
mariage catholique.
On oublie ça. Pour toi, c'est quelque chose d'important?
C'est peut-être parce que ma grand-mère maternelle est anglophone. Et on a souvent associé l'anglophone au Québec au pouvoir, à l'exploitation des francophones, mais c'est une anglophone d'ascendance irlandaise, donc c'est un peuple opprimé, absolument détruit par un empire, l'empire britannique. Et en fait, quand je suis allée en Irlande pour la première fois en 2014, j'ai traversé l'Irlande du Nord en autocar. Et j'étais fascinée par les paysages nord-irlandais qui me rappelaient ceux de mon enfance dans la région des Bois-Francs. Et ce qui m'a aussi saisie, c'est l'extrême gentillesse des Irlandais, la simplicité dans le rapport à l'autre et je me suis même demandé, je me suis dit, mais et si le côté accueillant des Québécois... On dit souvent, les Québécois sont très accueillants, sont généreux, les portes ouvertes. Je me suis dit, mais si c'était notre héritage irlandais plutôt que notre héritage français, et si ça nous venait de l'Irlande? Et je me souviens qu'avant de partir en Irlande, mon père qui est souverainiste, souverainiste de gauche, m'avait dit, quand tu vas arriver en Irlande, tu vas avoir l'impression de rentrer à la maison.
Et est-ce que c'est effectivement ce qui s'est passé?
Oui, il y a la barrière de la langue. Évidemment, je parle anglais, il y a aucun problème. Puis c'est certain que ma formation intellectuelle est francophone. Mon bagage littéraire est très français. Et donc ma culture, et je l'ai bâtie en français. Mais j'ai beaucoup plus d'ADN irlandais que d'ADN français. Et ça, quand je l'ai découvert, ça m'a troublée. Et je me suis demandé, et puis on m'a rassuré. Ensuite, on m'a dit, mais la culture, tu l'as choisie. C'est-à-dire que puis en fait, même dans mon bagage irlandais, c'est une langue qui s'est perdue, l'irlandais, le gaélique irlandais. Donc ça a été complètement écrasé par l'anglais. Mais oui, ça a été une découverte importante pour moi. À l'adolescence, j'avais quatre passions. La Russie, bon, ça s'est
ça s'est estompé.
Ça s'est estompé. J'ai réglé le cas. J'ai réglé son cas à la Russie avec mon premier roman, heureusement, avant que ça devienne presque tabou de dire qu'on aime la Russie. Maintenant, je voudrais que c'est très difficile d'aimer la Russie. Mon intérêt, c'est ouais vraiment. Donc j'avais la Russie, mais la Russie soviétique. C'était vraiment la Russie soviétique qui m'intéressait à l'adolescence. Absolument fascinée par cette histoire, par la guerre froide. Ensuite, j'avais les odeurs, les parfums. Donc ça, je me suis occupée de cette obsession-là. Je m'en suis libérée en écrivant Malabour, qui est l'histoire d'un parfum et d'un parfumeur. Il y avait les cultures celtiques, donc l'Écosse et l'Irlande, la Bretagne. Et c'était quoi la quatrième? Culture celtique, la Russie soviétique, les odeurs, les parfums, la musique, oui. J'étais flûtiste, je jouais de la flûte traversière, c'est mon instrument de musique. C'était, mon Dieu, je consacrais au moins 5 heures par jour à la pratique de la flûte traversière. Et quand je suis arrivée en Irlande, tout de suite mon attention est attirée dans les bars, dans les pubs par le tin whistle, qui est le flageolet irlandais qu'on entend vraiment, qui surnage dans toutes les chansons irlandaises, les musiques traditionnelles irlandaises. Donc j'en ai deux ici, j'en ai un très bon. Ce qui est extraordinaire avec le tin whistle, c'est que c'est un instrument de musique. Tu peux avoir un instrument de musique d'une qualité merveilleuse pour 50 ou 60 $, alors qu'une traversière de qualité, la mienne, elle est en argent. Je l'ai eue pour mes 18 ans comme cadeau. La famille s'est cotisée pour m'offrir une flûte traversière qui me suit depuis, et donc c'est un instrument qui est beaucoup moins démocratique. Donc j'ai pu jouer du tin whistle irlandais. Donc c'est ça, il y avait ces quatre passions là, et je les ai exploitées. j'ai réglé pas mal d'obsessions en écrivant des romans.
Est-ce que tu as eu l'impression, en allant en Irlande, de comme avoir une pièce du puzzle de ta vie qui s'ajoutait?
C'est drôle parce que ça arrive, on se pose pas la question quand on est dedans. C'est vraiment avec le recul. Si tu m'avais posé cette question-là, tu vois, après un premier roman, tu m'avais dit, est-ce qu'en en écrivant un roman sur une figure russe imaginaire, t'as l'impression de régler ou de clarifier un élément de ton histoire personnelle, je t'aurais dit, ah, je sais pas, peut-être, oui. Mais après 3 ou 4 livres, oui, c'est possible de repérer, d'identifier des motifs récurrents et des obsessions. Moi, je suis une personne obsessive. Et écrire un roman, c'est me libérer d'une obsession. Donc, il y a une question de départ. Et pendant 3 ou 4 ans, je vais chercher à répondre à cette question-là en écrivant un roman. Donc, ma méthode, je tombe en immersion, je me plonge dans le sujet, j'effectue une recherche documentaire et ensuite j'utilise, comme je te le disais précédemment, les outils de la romancière pour répondre à cette question-là. Donc, parfois même, on peut me poser une question, tu pourrais me poser une question et cette question-là pourrait donner lieu à un roman dans 12 ans, on ne sait pas, peut-être. Mais là, j'ai réalisé qu'en fait, oui, même si on m'a tout de suite étiqueté au début de ma carrière littéraire, on m'a dit c'est une romancière exotique qui ne travaille pas la matière locale québécoise et qui... Mais pourtant je parle de moi tout le temps. Je parle de moi tout le temps, mais j'ai besoin d'aller chercher ces réponses-là très intimes chez l'autre. En Irlande, en France, en Russie. Quand je décris les paysages hivernaux en russe soviétique, je décris nos paysages hivernaux. Quand je travaille la matière soviétique, je plonge dans mon obsession pour l'URSS, mon obsession de jeune adolescente de 14, 15, 16 ans qui dévore des vieux exemplaires de la Pravda ou des exemplaires du magazine Soviet Union que mon père collectionnait. Ou le livre de Life Magazine sur Moscou, publié dans les années 70, peut-être, je me souviens plus. Donc, tu sais, en fait, oui, j'ai vraiment l'impression que même quand je parle, même quand je vais chez l'autre, c'est pour trouver des réponses aux questions que je me pose pour chercher, oui, qui je suis, forcément. Là, tu vois, mon quatrième roman, je vais en 1755, le Grand Dérangement, la déportation des Acadiens, parce que Leblanc, mon nom de famille, qui est un matronyme, c'est le nom de ma mère, je porte le nom de ma mère, ce qui était très rare en 80, c'était même, on ne pouvait pas porter le nom de la mère, à moins d'être né de père inconnu ou décédé, ce qui n'était pas le cas de mon père. Mes parents ont frauder l'état civil pour me permettre de porter le nom de ma mère. Mes parents étaient féministes, sociologues en 80, et assez hardcore. et donc je porte le nom de ma mère, Leblanc, qui est un des noms les plus connus de l'Acadie historique et même de la deuxième Acadie. Donc je plonge dans les racines, mes racines encore une fois. Acadienne cette fois-ci, et je suis au tout début de la recherche et de la, vraiment de la documentation. Donc j'en ai pour 3 ou 4 ans dans ce sujet-là. Donc oui, vraiment c'est une quête des origines.
Mais c'est parfait que t'aies parlé de ça parce que ça fait un lien avec la question que je voulais te poser juste après, qui était comment tu conjugues ton identité acadienne et ton identité québécoise. Je sais que plusieurs des personnes qui nous écoutent ne sont pas au Québec, sont en France et font pas forcément, ne connaissent pas l'Acadie, ne savent pas quelle est la différence entre l'Acadie et le Québec. Comment est-ce qu'on expliquerait déjà ce qu'est l'Acadie à quelqu'un qui connaît pas?
Aujourd'hui, on dirait des Acadiens que ce sont les gens qui vivent au Nouveau-Brunswick et une petite partie de la Nouvelle-Écosse. Mais peu de gens savent que il y a par exemple la Bonaventure, qui est une petite ville de Gaspésie, un musée acadien du Québec, qui est situé à Bonaventure, et que le Québec est aussi une région qui, la Gaspésie forcément, qui a abrité, en fait, qui a recueilli des réfugiés acadiens. Donc, il y a deux Acadies, il y a l'Acadie historique et l'Acadie du retour. L'Acadie historique, c'est celle qui a été détruite par les Anglais en 1755, avec une déportation des 13 à 15 000 Acadiens qu'il y avait sur les territoires de l'Acadie historique.
Les Acadiens qui, en fait, étaient les premiers colons français qui se sont installés...
dans cette région des Maritimes, oui. Il y avait la Nouvelle-France, qui était très, très présente, très forte, qui a eu une histoire en parallèle. Donc, après la déportation de ces Acadiens, on a brûlé leur maison, on leur a volé leur terre pour mettre des planters, donc des colons anglophones sur leur terre qu'ils avaient défrichée. Les Acadiens ont transformé vraiment des marais en terres fertiles, probablement les terres les plus fertiles qu'il y avait à l'époque dans ces régions. En construisant des aboiteaux, des traditions vraiment françaises. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont pu faire. Et la deuxième Acadie, celle dont on parle aujourd'hui, c'est l'Acadie du retour. Donc, quand ces gens ont été autorisés à revenir dans la région, ils pouvaient évidemment pas s'établir là où ils étaient avant. Donc, il y en a qui ont fui carrément, qui ont traversé la baie des Chaleurs et qui se sont installés en Gaspésie. Moi, j'ai des ancêtres, mes ancêtres, Leblanc, René Leblanc, le notaire de Grand Prix, a été déporté avec une vingtaine d'enfants et une centaine de petits-enfants. Donc, c'est des familles qui ont été brisées, littéralement. C'est un nettoyage ethnique. Donc, je suis d'origine acadienne, d'ascendance acadienne par ma mère, mais je ne suis pas acadienne, c'est-à-dire que je ne vis pas en Acadie. La péninsule acadienne, qui est carrément, si on regarde, si on était sur le bord de l'eau, on est sur le versant sud de la péninsule acadienne, mais c'est la rive nord de la baie des Chaleurs, donc de l'autre bord, c'est l'Acadie. C'est la péninsule acadienne, donc on peut voir le pont de Miscou, on voit, disons, les éoliennes qui flashent à Miscou, on les voit. Donc c'est vraiment, puis il y a pas juste la péninsule acadienne, il y a dans le coin de on a bon, moi je dis encore Grand Pré, mais ça n'existe plus vraiment. On a un chat qui miaule.
Toi aussi t'as des choses à dire.
Tu viens d'où toi, Ulysse? Ulysse vient du refuge animal de Grande-Rivière. Donc oui, c'est ça, l'Acadie, oui, c'est ça, c'est très, c'est une histoire qui est très complexe, puis je ne vis pas en Acadie, mais je suis, oui, d'origine acadienne.
Faire cette recherche-là, est-ce que c'est aller à la recherche de tes origines acadiennes, écrire ce roman-là?
Mais je veux pas trop dévoiler ma méthode parce que je suis vraiment au début, au tout début, puis je veux pas tuer le sujet en parlant trop, mais oui. Oui, absolument. C'est redécouvrir ou découvrir le 18e siècle. C'est la guerre de 7 ans. C'est aussi l'histoire des 13 colonies, puisque les Acadiens déportés l'ont été. Bon, ils ont été dispersés. Il y en a eu qui ont été envoyés en bateau en Europe, mais il y en a qui ont été déportés dans une des 13 colonies. Et les 13 colonies des États-Unis, ben ils se sont quand même, ils ont fait la guerre à l'Empire aux Anglais, ils se sont libérés des années plus tard. Donc c'est vraiment une histoire du 18e siècle en Amérique du Nord aussi. C'est vraiment fascinant, mais c'est vraiment vaste.
Et la France, c'est quoi ton rapport avec la France?
C'est mon pays étranger préféré. C'est mon pays étranger préféré, bon, avec l'Irlande, mais c'est sûr que la France a quelque chose que l'Irlande n'a pas, c'est la langue. On parle la même langue, pas le même langage, mais la même langue. C'est un pays, mon Dieu, c'est le pays que j'ai le plus visité. Je suis allée, mon Dieu, je compte plus, 25-30 fois en France. J'ai passé pour Jean du Nord, j'ai fait deux résidences d'écriture assez longues, donc j'ai passé 4 mois en résidence en 2014, résidence d'écriture, donc ça veut dire que on est logés, nourris, payés. Pendant 4 mois, j'étais l'écrivaine en résidence du Festival América de Vincennes. Et en 2017, j'ai été écrivaine en résidence à la Maison des écrivains étrangers, des traducteurs de Saint-Nazaire, donc pendant 2 mois. Donc j'ai passé...
En Normandie?
Non, c'est... on dit la Bretagne.
Là, c'est la Bretagne, Saint-Nazaire?
C'est la Bretagne, oui. Okay. C'est le début de la Bretagne. Okay. C'est contesté, mais oui. Moi, je mangeais des crêpes bretonnes à Saint-Nazaire. Donc, j'ai passé l'équivalent de peu près 6-7 mois en France pour écrire Jean du Nord. Donc, tout ce que je décris dans Jean du Nord, les trajets à Paris, je les ai faits une vingtaine de fois. Le trajet entre la Gaspésie et Montréal en autocar aussi, le trajet entre Montréal et New York en autocar aussi, je l'ai fait. C'était vraiment... Alors que dans mon premier roman, L'homme blanc, j'ai reconstitué une URSS sans jamais avoir mis les pieds en Russie.
Ah.
C'était vraiment une recherche absolument que documentaire. C'est le travail de l'intuition aussi, évidemment, qui les outils de l'écrivain, du romancier, de la romancière. Là, pour mon 4e roman, ben évidemment, l'Acadie que je décris n'existe plus, l'Acadie historique, mais on a une documentation qui est disponible. Puis, ben, c'est un travail de l'imaginaire.
Et quand tu vas en France, j'imagine que et puis tu vas en fait à plein d'endroits dans le monde, je sais que t'es allé au Maroc pour parler de ton travail. Pour ces gens-là, t'es une écrivaine québécoise, voire même une écrivaine canadienne, j'imagine, parce que souvent les gens font pas la différence entre le Québec et le Canada. Est-ce que ça t'a fait envisager une nouvelle façon de te percevoir aussi?
C'est certain qu'il arrive parfois en France qu'on nous présente comme des écrivains canadiens, mais de moins en moins, on recadre. Pour une raison qui... En fait, c'est l'évidence même, c'est-à-dire que je m'inscris dans une littérature qui s'écrit en français, c'est la littérature québécoise. La littérature canadienne, elle est anglophone, cette littérature, même si quand mon premier roman a été traduit en anglais, je pense que c'est dans le National Post, ils avaient dit, ben voilà, un nouveau roman pour le canon littéraire canadien. Je venais de gagner le prix du gouverneur général, le prix littéraire du gouverneur général, qui est le prix littéraire le plus important de langue française au pays. Et je trouvais ça un peu artificiel, parce que c'est une littérature qui s'écrit en anglais. c'est vraiment c'est la langue d'écriture qui détermine la littérature à laquelle tu appartiens, selon moi. Donc je recadre quand on me présente comme une écrivaine canadienne en France, je recadre. Au Maroc, jamais, ils sont très au courant, je pense. Oui, non, littérature québécoise. Le Québec est très présent, la diplomatie québécoise est assez présente au Maghreb. C'est vraiment le bureau du Québec à Rabat s'occupe de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. Non, je me suis jamais. Tu sais, j'ai un passeport canadien, mais je suis une écrivaine québécoise. Vraiment, j'appartiens à cette littérature-là, littérature québécoise. C'est sûr que c'est complexe. Je me souviens, j'étais sur un jury. Au Conseil des arts du Canada, il y a quelques années, puis il y avait une auteure inoue. Et je lui demandais, est-ce que tu t'identifies comme écrivaine québécoise ou comme inoue? Elle m'a dit non, comme auteure inoue. Mmh. Et c'est pas choquant. Même si elle écrit en français. Elle parle sa langue, elle parle la langue inoue, mais évidemment, elle écrit ses livres en français. Ouais, elle est auteure inoue, donc pour moi c'est naturel. Je suis une auteure québécoise.
Ma dernière question que je pose à tous mes invités, t'auras peut-être plus de facilité à y répondre parce que t'es écrivaine, donc tu fais des livres. C'est s'il devait citer quelque chose, un objet, mais dans le sens le plus large d'objet culturel, qui incarne leur identité à eux en tant que personne avec toutes leurs influences. Qu'est-ce que tu citerais?
Une œuvre en particulier ou un genre? Oui, c'est certain que je suis auteur, donc pour moi, le livre est un objet culturel exceptionnel. Mais je pense que les chanteurs québécois ont quand même beaucoup fait pour l'identité québécoise, surtout dans les années 70, je pense à des gens comme Paul Piché, Beau Dommage, Harmonium, même encore là, les Cowboys Fringants, on voit, ils perdent un membre et le Québec est en deuil. En même temps, un écrivain majeur qui meurt au Québec, ça, on s'attend à ce qu'il y ait des funérailles nationales. Donc, plutôt que de parler de genre ou de je dirais plus des artistes en particulier, je pense que c'est évidemment on a Denis Villeneuve qui explose comme cinéaste, qui est maintenant considéré avec Christopher Nolan comme le plus grand réalisateur de science-fiction au monde. J'ai de la misère à dire le livre parce qu'il y a aussi le cinéma, il y a aussi la musique, on a aussi des scientifiques comme Hubert Reeves qui ont aussi laissé leur marque. Donc j'ai de la misère à répondre à la question, mais c'est sûr que j'ai un parti pris pour la littérature.
Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées dont tu aurais aimé parler?
Non. Je pense qu'on a. Probablement que dans demain matin, je vais penser à quelque chose. Je vais dire, j'aurais dû ajouter ça, mais non.
Très bon. Bien. On va pouvoir aller dîner alors.
Merci.
Merci beaucoup, Perrine.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Québec au pluriel jusqu'au bout. Comme d'habitude, il a été produit avec CISM. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode enregistré non loin de Port-Daniel, à Chandler, un autre petit village le long de la 132 dans le sud de la Gaspésie. Cette fois, ce sera avec une artiste d'origine algérienne et gaspésienne. À la semaine prochaine!